Radio Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Sela Atin Demirtas a donc été condamné à 4 ans et 8 mois de prison il y a quelques jours en Turquie. Détenu depuis novembre 2016 et candidat malheureux à l'élection présidentielle le 24 juin dernier, il reste en prison ainsi que son compagnon de cellule, l'ancien député Souraya Önder, qui a, lui, été condamné à 3 ans et 6 mois de prison. Sur les réseaux sociaux, le Parti démocratique des peuples, dont Demirtas a été le leader, a dénoncé des procès politiques visant à réduire au silence toute opposition au président Erdogan. Si l'homme politique Demirtas est toujours sous le feu de la justice et risque encore 142 ans de prison, l'écrivain Demirtas est lui plus serein et il est publié pour la première fois dans de nombreux pays, dont la France. Un recueil de nouvelles qui parle de son pays, de ses habitants, des travers de sa société, de l'espoir qui demeure malgré tout. L'horreur, œuvre littéraire de Sela Atin Demirtas, c'est le thème d'Orient Hebdo ce dimanche. Bonjour Emmanuel Colas.
Bonjour Éric Bataillon.
Éditrice, vous avez décidé de publier le recueil de nouvelles de Sela Atin Demirtas, Seher, qui veut dire aube en turc. Sela Atin Demirtas n'est pas un écrivain, c'est un homme politique, ex-coprésident du Parti démocratique des peuples, HDP, parti progressiste, qualifié de pro-kurde, car ouvert à des militants de toutes origines, kurdes compris. Alors l'ouvrage a pour titre celui de la seconde nouvelle, Seher, Aurore donc en français. Que raconte-t-elle cette nouvelle?
Alors là, vous pouvez toujours attendre que je vous la raconte, parce qu'elle est très très belle et que ce serait livrer trop de choses. Je laisse les lecteurs la découvrir. C'est une histoire d'une femme, qui découvre l'amour et en découvrant l'amour, elle trouve la mort comme beaucoup de femmes qui se trouvent en fait entre Edirne, Istanbul, Ankara, Diyarbakır, Alep, Hama, Homs, puisqu'en fait, ce recueil de nouvelles couvre le Proche-Orient de la Syrie à la Turquie. Essentiellement, ce sont des histoires turques et ce sont des histoires kurdes.
Ayri, son amoureux, la fit monter dans la voiture sans lui présenter ses amis. Ils se saluèrent entre eux. Le conducteur et le passager, assis devant, se murmurèrent quelque chose à l'oreille. Ayri ne dit pas un mot à Seher, pas plus qu'il n'indiqua au chauffeur la route à suivre. Lorsqu'ils quittèrent la rue principale, au rond-point de Balkali, la nuit tombait. Seher lança d'une voix inquiète. « Vous êtes trompé de direction, j'habite à Shakir Pasha. »« Ne t'inquiète pas, on a pensé qu'on pourrait faire un tour par la route du barrage, histoire de prendre l'air. On te déposera chez toi ensuite, ça fera un peu de changement, » dit Ayri pour essayer de la rassurer. « Pas trop longtemps alors, on m'attend à la maison, » répondit Seher d'une voix tremblante. Soudain, la voiture prit une route qui s'enfonçait dans la forêt. Le cœur de Seher se mit à accélérer. Ils s'arrêtèrent au milieu des bois. « Descends !»« On va prendre l'air, ça fait du bien l'air de la forêt, » dit Ayri. Quand elle revint à elle sur le bord d'un trottoir, elle crut d'abord qu'elle rêvait. Elle voulut se réveiller, mais elle l'était déjà. Ses vêtements étaient déchirés, ses jambes couvertes de sang. « Une voiture m'aura renversée, » pensa-t-elle. Ce devait être ça, elle ne voyait pas d'autre explication. Une voiture m'a renversée, je me suis évanouie et j'ai fait un cauchemar. La rue était silencieuse. Elle se trouvait dans une sorte de zone industrielle. Elle ne savait pas où exactement. Selon vous, Emmanuel Colas, que veut dénoncer Sela Atin Demirtas dans cette nouvelle dont je viens de lire un extrait?
Sela Atin Demirtas est turc d'origine kurde, puisqu'il est né à Elazığ. Il est kurde Zaza, il est donc quelqu'un qui vient de cette communauté kurde qui est assez complexe et dont on ne parlera pas là. Et il travaille sur une Turquie qui est celle de l'avenir, à mon avis, qui ne peut exister que comme ça, qui est faite de toutes les minorités possibles pour faire un état de droit où on fait attention à tout ce qui est autre, c'est l'autre Turquie, je dirais. Et dans ses nouvelles, il a un vrai regard totalement juste sur tout ce qu'est la Turquie dans ses absurdités, dans ses rapports aux minorités. Et il le fait avec un humour incroyable. Ce sont essentiellement des portraits de femmes
Comme par exemple la nouvelle qui concerne Nazo, cette femme de ménage qui vient en centre-ville pour faire son travail et qui se retrouve à l'hôpital.
Oui,
on en dira pas plus.
Et quelque part politisée, alors qu'elle n'a jamais fait de politique. Elle est très drôle, celle-ci, parce qu'il a vraiment un sens de l'humour incroyable. Il y a aussi la première nouvelle, avec cette femme moineau, comme on se croirait dans Aristophane et les oiseaux, qui se bat contre la violence d'État. Et son mari est un peu particulier, quand même.
Il ne fait pas grand-chose, et il se couche un peu.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Alors, est-ce une façon pour Demirtas de dénoncer l'absurdité, notamment l'absurdité policière, mais pas seulement l'absurdité de l'État actuel en Turquie?
Oui, je pense qu'il s'intéresse à tous les problèmes liés à la Turquie même, et pas dans toute sa complexité, que ça soit la violence d'État, que ce soit les gens qu'on met en prison, que ce soit les crimes d'honneur, que ce soit le viol, la tradition extrêmement dure par rapport aux femmes. D'ailleurs, ce livre est dédié aux femmes victimes de la violence et aux femmes assassinées. Et quelque part, ça nous emmène bien au-delà de la Turquie.
Alors, il y a une nouvelle qui s'appelle « Le salut aux yeux noirs » qui est assez glaçante, puisqu'on y voit des ouvriers, certains des enfants qui travaillent pour construire quelque chose de qui en fait la prison se trouve de Myrtage, c'est cela?
Il ne manque pas d'humour.
Oui, absolument.
Et oui, en effet, c'est cette maison que l'on construit, cet édifice que l'on construit n'est autre que la prison de type F d'Edirne, et elle est construite par des ouvriers qui sont aussi des enfants, et ils ont bien des ennuis, ces enfants, et on va pas tout dévoiler, mais...
Alors ça, c'est la question des enfants, du travail des enfants, c'est la question aussi des travailleurs pauvres, finalement,
oui.
Et puis de la façon dont les entrepreneurs qui réussissent se comportent vis-à-vis de leurs employés.
Oui, alors il y a vraiment... dans ces nouvelles, il y a des choses qui sont du domaine de l'intime, donc on plonge dans les familles, qu'elles soient turques ou kurdes, qu'on soit en campagne ou en ville, et quand on a les 12 nouvelles, on a vraiment un panel de toutes les femmes, et ce sont souvent des femmes très très différentes, qu'elles soient femmes médecins, femmes de ménage, jeunes filles au fin fond d'un village à l'est, petites filles d'Ama ou d'Alep, elles sont toutes différentes, elles doivent émigrer ou elles sont amoureuses ou pas, elles ont toutes des histoires extraordinaires, et c'est avec ça qu'ils racontent en fait cette Turquie dans laquelle plein de choses sont belles et totalement ouvertes sur le dialogue, sur le progrès, sur plein de choses, et aussi une Turquie qui mérite d'être réformée.
C'est représentatif de son combat politique aussi, qui est un combat pour un pays progressiste?
Oui, c'est à mon avis le seul homme progressiste du Proche-Orient en ce moment. Et sa particularité, c'est d'accueillir, je dirais, toutes les minorités, l'altérité en général, puisque le HDP a une particularité. Déjà, vous avez deux coprésidents, un turc et un kurde, vous avez toujours une femme et un homme, et alors dans les nouvelles, notamment la dernière, qui s'appelle donc « La fin sera grandiose », c'est en fait sous le couvert d'une nouvelle, vous avez plein d'éléments d'un programme politique avec des idées... vraiment d'égalité, de partage des richesses, et il y a aussi la dénonciation du fait que, par exemple, les Kurdes n'ont pas parlé leur langue à l'école. Il y a plein de choses qui se trouvent dans ces nouvelles, et tout est donné avec beaucoup de poésie, avec beaucoup d'humour, et des fois c'est terrible, on pleure dans ces airs. Mais on peut rire avec Nazo, femme de ménage, et c'est ça, ou avec Assouman. C'est très très drôle l'histoire d'Assouman ou les délices d'Alep. Enfin voilà, on se promène. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est à la fois la beauté de ces nouvelles. D'ailleurs, je pense qu'on a un écrivain.
Si justement, est-ce que ça révèle un écrivain au-delà de l'homme politique?
Oui, je pense que s'il reste 142 ans en prison, on aura gagné un écrivain. Si il sort de prison, Eh bien, je pense qu'il sera un peu occupé, mais peut-être y retournera-t-il. Et donc, et à ce moment-là, peut-être aura-t-il le temps d'écrire. En tout cas, on a une hésitation là. On a un écrivain quand il est coincé, un peu en dehors du politique, et on a un homme politique qui est jeune. Hein, il a 45 ans, qui a déjà un parcours et qui est très charismatique et qui a quelque chose. Moi, il me fait penser à des gens qui, à l'époque, avant le mur de Berlin, comme Václav Havel ou Mandela, des gens qui portent un combat, plein de convictions. Donc, ils portent quelque chose d'un avenir dans un Proche-Orient qui est quand même en piteux état.
Un homme qui a donc du talent d'écrivain, qui est charismatique sur le plan politique, qui a beaucoup d'humour, puisque dans l'une des nouvelles, il s'adresse directement au comité de censure, que vous-même d'ailleurs vous avez évité lorsque vous lui avez écrit.
Ben, en fait, on ne l'évite pas dans le sens où tout ce qui arrive dans la prison est évidemment lu. Alors, et moi, je n'ai rien fait pour que ça ne soit pas lu, puisque la lettre que je lui ai écrite, je l'ai écrite en français, et nous l'avons traduite en turc. Donc, ce sont deux lettres qu'il a reçues, l'une en français, l'autre en turc, dans laquelle je racontais mon envie de le publier entre les mots et les silences, disons. Et lui, en effet, répond au courrier, mais il est très sollicité. Il répond et il répond aux questions. D'ailleurs, ça se voit dans la campagne électorale, puisque quand les questions arrivent jusqu'à la prison, par l'intermédiaire des avocats, ou du courrier, il répond pas à pas sur chaque chose. C'est pas un tendre, il y va. Hein. En Turquie, les gens se battent, ils sont pas du tout prêts. Il y a une vraie opposition. Vous voyez, pour le référendum, on était quand même arrivé entre 51% et 49%, et en sachant qu'il y a des votes qui sont sans doute liés à la tricherie pour que ce soit positif. Donc on est dans un pays où l'opposition est forte, et c'est ça, moi, que j'ai envie de faire avec ce texte. D'abord, je suis éditeur, mais je suis aussi quelqu'un qui regarde ce monde qui vient, et je trouve que c'est très important que la Turquie, qui est en ce moment au bord d'une guerre civile, puisqu'il y a moitié-moitié de gens qui sont pour les uns ou pour les autres, pour un type de régime ou un autre, eh bien que cette Turquie, elle n'implose pas, parce que elle représente quelque chose de très important, elle a un rôle important géopolitiquement, et pour nous, il faut ne pas oublier que en Turquie se trouvent énormément de réfugiés et énormément de gens qui vivent comme vous et moi dans un pays progressiste, un pays différent, et qui n'ont pas du tout l'intention de se faire manger par un régime qui serait complètement réactionnaire, traditionnaliste, islamiste, où on enferme les intellectuels. Et en plus, c'est un pays qui est en grave danger aussi, parce qu'il est au bord d'une énorme crise économique.
Et beaucoup de Turcs, de personnalités, sont en exil, et notamment Aslan Erdogan, à qui vous avez demandé d'écrire la préface de cet ouvrage.
Oui, alors en fait, Aslan, je la connais depuis longtemps, puisque je la lis depuis longtemps, bien avant qu'on la connaisse. J'aime beaucoup cet écrivain, et quand elle a été en prison. C'était insupportable. Enfin, ça n'avait pas de sens. C'est pas l'écrivain qui était en prison. C'est Asle qui prend fait et cause pour toutes les minorités. Et donc, c'est dans son engagement dans un journal et dans tout ce qui a maintenant été publié, mais qui, en fait, c'était toutes ces éditoriaux et tout ça là, et sa prise de position, notamment pour les Kurdes, mais pour les femmes aussi, etc. Donc, quelque part, Asle a à voir avec Selahattin Demirtas. Et donc, j'ai fait partie des gens qui sont intervenus quand on me le demandait pour défendre le travail d'Asle, qui elle était et autres. Et Asle est aujourd'hui... elle n'est pas libre, elle est juste en exil forcé. Elle vit en Allemagne, d'ailleurs, elle est profondément seule en ce moment... Voilà, c'est très très dur. Voilà, je lui ai dit que j'allais publier CR et c'est elle spontanément qui m'a dit mais moi je serai là et ça fait sens. Alors elle a écrit quelques mots pour Selahattin. Elle est censée en effet, elle m'a proposé une préface. En ce moment, elle a des soucis de santé. Je ne sais pas si au bout du compte la préface sera là ou pas, mais en tout cas Asle nous accompagne et elle va nous accompagner dans ce combat parce que c'est le sien aussi.
Alors le livre sort en France, mais aussi dans de nombreux pays. A-t-il des chances d'être publié au Moyen-Orient ?
Eh bien oui. Eh bien oui, parce que il a été publié en Italie par Feltrinelli au mois d'avril. Le 14 septembre, il sort en France. L'Allemagne est en train de travailler d'ailleurs avec Asle aussi chez Penguin. Il sera publié en Angleterre et aux États-Unis chez Hogarth. Et puis, alors, depuis que moi, j'ai annoncé que j'avais envie de publier Selahattin, je l'aurais fait avant si j'avais eu un outil au bon moment, mais en tout cas que j'étais prête à m'engager dans ce combat, qui est un combat éditorial et de conviction, autant littéraire, je dirais, que politique, au sens du politique, et pas de la politique, parce que moi, je suis pas turque hein, dans l'affaire. Et ben, il y a l'Égypte, et avec Al Arabi Publishing, qui va permettre de vendre ce texte partout en langue arabe. Il y a aussi le Japon et la Chine, et bien d'autres encore.
Et rappelons que le livre a été un succès de librairie en Turquie.
Oui, tout à fait. C'est une toute petite maison qui publie ce texte à Ankara, Dipnot, qui est en fait Emir Ali, l'éditeur, est un compagnon de combat de Selahattin Demirtas. Et ce livre sort en septembre dans une toute petite maison. Et puis, voilà, il y a des militants. Ça a été un immense espoir. Cet homme a représenté un immense espoir pour tous ceux qui vivent en Turquie et tous ceux qui aiment la Turquie, une Turquie qui n'est pas celle d'Erdogan. Et donc, on est en mars, on était à plus de 180 000 et ça doit continuer. Je ne connais pas les chiffres aujourd'hui, mais le plus important, c'est que on connaisse de mieux en mieux cet homme, qu'on comprenne qui il est. C'est vraiment quelqu'un avec qui qu'on a envie de rencontrer, avec qui on a envie d'échanger. Et le début de ce dialogue possible, c'est l'aurore.
Un recueil de nouvelles que vous publiez, Emmanuel Colas. Merci.
Je vous en prie, merci à vous, Éric Bataillon.
Donc vous êtes l'éditrice de Selahattin Demirtas, et je rappelle le titre de l'ouvrage, c'est « Serre, l'horreur » en français.
Et il est disponible donc aux éditions Emmanuel Colas, Diffusion Média.
Merci. Orient Hebdo, une émission de RFI réalisée par Mathias Golshani. Retrouvez-nous sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Un podcast également sur notre application Pure Radio. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de la Radio Mondiale. Tout de suite, un nouveau journal.